21. Élise. Pour respecter ma résolution de m'installer au gouvernail au lieu de me laisser flotter, j'ai décidé de m'adonner à des activités seules. J'ai beau fouiller ma mémoire, je ne me souviens pas de ma dernière sortie sans l'un de mes enfants ou Muriel lors de ses séjours en France. Nous sommes trois dans la salle de cinéma. J'ai choisi un film au hasard. Lorsque je me suis retrouvée face aux différentes affiches, je me suis rendu compte que je ne savais plus ce que j'aimais. Mes goûts se sont dilués dans ceux de Charline et Thomas. À la maison, au cinéma, c'était eux qui sélectionnaient le programme. Ce qui me plaisait, c'était ce qui leur plaisait. La jeune femme à la caisse attendait que je me décide, mais j'étais comme sonnée par cette découverte. J'avais passé plus de 20 ans à vivre à travers mes enfants. Je ne connaissais plus mes goûts, je ne savais plus qui j'étais. Pressée par la jeune femme, j'ai fini par opter pour l'affiche qui m'attirait le plus. J'ai pris du pop-corn caramélisé. Le pot est déjà bien entamé à la fin des publicités. Le film commence. Il fait nuit. Une voiture roule sur une route au milieu de la forêt. Le poste diffuse un morceau de Katy Perry. Dans l'habitacle, tout le monde chante. Le père au volant, la mère tenant dans sa main un micro imaginaire, les deux enfants à l'arrière. Le véhicule tombe en panne. Plus de musique, plus de moteur. Le père descend en sifflotant, ouvre le capot, essaie de repérer le problème en s'éclairant avec son téléphone. Un bruit attire son attention. Cela vient de la forêt. On dirait un rire. Il dirige la lumière vers les arbres, ne voit rien, retourne à son moteur. Le bruit se rapproche. Le père ne siffle plus. Tout a l'air normal sous le capot. Tout à coup, des hurlements. Les enfants. Le père se précipite vers la portière. Les vitres sont badigeonnées de sang. Il ouvre. Une masse sombre surgit. Mon pop-corn sursaute. Je détourne le regard, me bouche les oreilles et quitte la salle noire, dos à l'écran, en crabe, terrorisé. Je prends l'autoroute pour rentrer. Je n'allume pas la radio. Je me gare au pied de mon immeuble. Je ne relève ni mon courrier ni mes glands. J'emprunte l'ascenseur. Je m'enferme à double tour. Édouard me saute dessus. Je hurle. Il s'aplatit au sol. Je m'accroupis pour le caresser. Nous commençons tous deux à nous apaiser lorsque quelqu'un frappe à la porte. À pas de loup, je m'approche et regarde dans le Judas. Monsieur Lapin me fixe droit dans l'œil. J'ouvre la porte. Bonjour, monsieur Lapin.
Votre chien hurle toute la journée, il faut le faire taire.
Je braque les yeux sur Édouard. Sur le dos, les pattes en l'air, il contemple le vide. Vous êtes sûr que c'est le mien ? Je suis très étonnée, je n'ai quasiment jamais entendu le son de sa voix.
Je ne suis pas un menteur. Depuis 10 jours, c'est insupportable. J'ai besoin de calme, moi.
Mon chaleureux voisin a besoin de calme, quand il ne retape pas des meubles à minuit. Depuis qu'il est à la retraite, il court les déchetteries et les locaux à poubelle pour y récupérer toutes sortes d'objets, car on ne sait jamais ça peut servir. Des outils, des guéridons, des chaises, des jouets, des livres, des tableaux qu'il entasse chez lui ou sur le palier en attendant de leur découvrir une utilité. Je m'en occupe, monsieur Lapin. Je vais me renseigner auprès des autres voisins.
Faites ce que vous voulez, mais trouvez une solution. La prochaine fois, j'appelle les flics.
Manifestement, il n'a pas eu sa dose de carottes. Je n'ai pas à mener l'enquête longtemps. La locataire de l'appartement d'en face me confirme que, en mon absence, Édouard se prend pour une cantatrice. Je me laisse tomber sur le canapé en tentant d'analyser la situation. Lorsque Thomas vivait ici, Édouard demeurait souvent seul en journée. Pourtant, il n'a jamais aboyé. Cela valide le diagnostic du vétérinaire. Il est dépressif. Il ne supporte plus sa solitude et les voisins non plus. Pour eux, pour moi, et avant tout pour lui, je ne vois qu'une solution. Je dois convaincre mon fils de prendre Édouard chez lui. 22. Lily. Je n'ai pas pleuré en te disant au revoir. On t'a gardé contre nous toute la journée. On t'a câliné, parlé de ta chambre, de tes cousins, de notre chat. On t'a raconté ce qui t'attendait, comme pour te donner envie. On a collé des photos de nous sur le tableau blanc. On a dessiné plein de cœurs. On t'a répété qu'on t'aimait. On a repoussé notre départ. On s'est rassasié de toi. On t'a repu de nous. Quand Estelle, la puéricultrice qui chantonne, a promis qu'elle nous préviendrait à la moindre alerte, on a décidé de rentrer. J'ai déposé le doudou portant mon odeur près de toi et je t'ai dit au revoir sur le même ton que d'habitude. Bonne nuit, mon amour. Fais de beaux rêves. On se voit demain. Je t'aime plus que tout. Je ne voulais pas que tu sentes une différence. Il paraît que c'est ça, être parent. Faire passer les émotions de son enfant avant les siennes. Lui sourire quand on a envie de pleurer. Écouter sa journée d'école quand on rêve de dormir. Jouer aux petits chevaux quand on veut tout plaquer. Le rassurer quand on est prêt à tuer tout le monde. Le consoler quand on a besoin de hurler. Dans l'ascenseur, machinalement, j'ai enfoncé le bouton du troisième étage. Ton papa m'a souri et a appuyé sur celui du rez-de-chaussée. Je ne pleurais toujours pas. Et je n'en avais pas envie. C'était pire que ça. C'est en passant les portes automatiques que je l'ai violemment ressenti. Le vide. Un trou béant dans les entrailles. Je ne portais plus la vie. Tu n'étais plus dans mon ventre, mais pas encore dans mes bras. Chaque nouveau pas me donnait un peu plus le sentiment de t'abandonner. Je t'imaginais, seule dans ton box, et ça me déchiquetait le cœur. Bien sûr, les puéricultrices et les auxiliaires étaient avec toi, mais tu n'étais pas l'unique bébé dont elles devaient s'occuper. Il y avait les berceuses bénévoles, mais elles se consacraient aux enfants dont les parents ne venaient jamais, ou presque. La nuit était tombée, pourtant la chaleur demeurait écrasante. On a roulé les vitres baissées, ton papa conduisait lentement. Il s'est même trompé de chemin alors qu'il le connaît par cœur. On ne se lâchait la main que quand il devait passer une vitesse. Il a ouvert le portail et s'est garé dans le jardin. C'était étrange. Je n'étais partie que depuis une semaine, pourtant notre maison semblait appartenir à une autre vie. Milou, notre chat, est venu se frotter contre mes jambes. C'est ton père qui lui a donné un nom de chien. Ça l'amuse beaucoup. Je préfère taire les prénoms auxquels tu as échappé. Je n'ai pas remarqué la voiture sur le trottoir. Je n'ai pas vu la lumière à travers le volet de la cuisine. La porte d'entrée s'est ouverte alors que je cherchais les clés dans mon sac. Ta grand-mère paternelle nous souriait, une casserole à la main. J'ai regardé ton père, il avait l'air aussi surpris que moi.